je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes menus.
Bonjour à vous tous, ici Francine Broca. Bienvenue à une autre édition de Nous séant à l'autre. Quelle belle semaine, quelle belle journée ici au Québec. C'est notre première semaine vraiment de printemps. Aujourd'hui, on a à peu près 20 degrés et on nous annonce jusqu'à vendredi, peut-être jusqu'à 27 degrés. Alors, je trouve que c'est un moment, on entend la nature se réveiller, elle s'épanouit, il fait tellement, tellement bon. C'est le temps du renouveau que j'appelle. Vous savez, le moment où ces feuilles dans les arbres qui ne sont pas tout à fait éclos. Et là, avec cette chaleur, on peut les entendre plouc, 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 un peu à gauche, à droite. C'est extraordinaire. Donc, aujourd'hui, nous parlons de nos habitudes de consommation. Nous vivons dans une société, on le sait, d'hyperconsommation, ce qui nous fait anticiper les revenus à venir, qui conduit bien souvent à l'endettement de bon nombre de ménages, qui a fait reculer la frugalité de nos arrière-grands-parents parce que eux, ils prévoyaient pour leurs vieux jours, ce que nous ne faisons pas, enfin pas tous en tout cas. Donc la crise provoquée par la COVID-19 sera-t-elle suffisante pour contrer l'appétit du toujours plus? Serons-nous dans le temps mettre un frein à cette hyperconsommation? Qu'avons-nous appris et qu'en restera-t-il? C'est notre sujet du jour et j'en discute avec Marie-Pierre Médouga. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Francine.
Bonjour.
Un petit souci, j'avais mal éteint ma radio. Comment allez-vous?
Ça va bien. Est-ce que votre petit souci est réparé?
Complètement, il est réparé, je voulais juste vérifier que
la
radio était bien fermée. Je vous écoutais à la radio.
D'accord, mais de toute façon, là, je pense que votre micro n'était pas tout à fait ouvert. Enfin, là, tout est en ordre. Alors, nous parlons, c'est comme je vous ai dit, nous parlons de l'hyperconsommation ou notre consommation. Est-ce qu'avec cette COVID-19, on a changé nos habitudes pendant le confinement? Est-ce qu'après, on va garder ces habitudes-là? Qu'est-ce qui va changer? Mais avant, on va faire comme toujours, Marie-Pierre. Il fait beau chez vous, dites-moi avant.
Il fait un temps magnifique.
C'est vrai.
Si je m'étais vraiment toute cette journée, j'ai eu une journée très remplie.
Oui.
Je me serais volontiers allée me promener. Depuis 3-4 jours, il fait entre 18-19 degrés à l'ombre, c'est-à-dire 20-23 au soleil. Mm-hmm. Donc, on est en t-shirt, en chemise. Voilà.
Est-ce que vous êtes masquée?
Quand je sors, oui, je suis masquée.
Non, mais pas vous, mais les gens là, chez vous, ils sont en t-shirt et tout ça.
Pas tellement.
Non, pas tellement.
Pour dire la vérité, pas tellement. Bon. Alors, ça provient du fait qu'on ne trouve pas des masques partout, mm-hmm. toujours pas,
ouais.
malgré ce qu'on nous a annoncé. Et puis, en fait, je pense que les gens, ça y est, il y a une espèce de relâchement progressif. Hein.
Ouais.
Donc, les gens vont les... tout le monde est masqué dans les bus. Hein.
Ouais.
Donc, dans les bus, les tramways, les gens sont masqués.
Dans les transports,
oui.
Ben c'est bien, au moins dans les transports, les gens se protègent, ils n'ont pas la distanciation est beaucoup plus difficile, au moins il y a ça. Mais enfin, quel est votre coup de cœur, Marie-Pierre?
Mon coup de cœur, en fait, j'en avais deux, ce qui est rare, et je n'ai pas su choisir.
Bon.
Alors, une très très bonne nouvelle.
Oui.
Les bateaux qui sont impliqués dans la chasse à la baleine ont décidé de ne pas reprendre leur activité jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que les baleines, elles ont un répit extrêmement grand sur tout le long de l'année. Il n'y aura pas de chasse à la baleine cette année et il n'est pas exclu que cette chasse à la baleine puisse s'arrêter définitivement, en tout cas pour l'Islande. Donc je trouvais que c'était une bonne nouvelle pour les baleines et pour la protection marine dans le monde.
Ouais. On a dit, hein, je veux dire, la nature a repris un peu de ce qui lui appartenait, un peu sa place. Alors, si elle peut continuer comme ça, comme j'ai dit, ça va faire partie aussi de nos changements avec la nature. On va devoir une autre approche. C'était votre coup de cœur, votre autre, vous pouvez me le dire aussi, si vous en avez deux, ça fait toujours plaisir.
Mon coup de cœur, c'est qu'une famille de renards s'est installée au cimetière Pierre-Lachaise.
Ah.
Ça me fait ça me fait vraiment
chaud au cœur, hein, oui.
Chaud au cœur, oui. Déjà parce que pour des raisons personnelles, j'y ai des gens que j'aime là-bas.
Ah
oui. Et puis ensuite, c'est un petit peu de biodiversité dans un immense parc. Les parcs, les cimetières à Paris sont de véritables parcs. Hein,
oui, oui, c'est très très beau, oui.
Et donc, effectivement, si on sait qu'il y a une trentaine de renards qui vivent à Paris, c'était la première fois qu'on en voyait au Père-Lachaise.
Mmh.
Et puis, ils ont un grand terrain de jeu de 43 hectares. Et en fait, on a décidé de ne pas les embêter, de les laisser tranquillement là-bas. Donc ouais. Ça, c'est quelque chose de chouette.
Ah bah c'est bien. Voilà. Ils vont tenir compagnie au Père-Lachaise. Voilà, c'est bien. Et votre coup, avez-vous un coup de blues ?
J'ai un coup de blues aujourd'hui, et là, c'est mort Michel Piccoli.
Oui, mais j'avais ça aussi. Ouais.
Ouais. Voilà. Donc, on le partage. Hein. C'est ouais. un grand acteur. Et mon coup
un monstre, blues, un monstre du cinéma. On pourrait dire que
oui,
c'est un monstre du cinéma.
Tout à fait.
Ouais. Ouais.
Et mon coup de blues n'est pas tant pour sa mort. 94 ans, c'est un bel âge hein, quand mm-hmm. même pour mourir. Mon coup de blues provient du fait qu'il n'a jamais été récompensé par un César. C'est ça mon coup de blues.
Ouais.
Je suis absolument éberluée. J'étais persuadée qu'il avait eu un César.
Non, j'ai lu ça ce matin aussi. Non, il avait absolument, on lui a rien remis. Et c'est ce que je suis de votre avis, c'est tout à fait triste. Hein? Peut-être qu'on va voilà, penser maintenant à lui, maintenant qu'il est décédé, mais ça aurait été peut-être appréciable du temps de son vivant, peut-être de lui offrir quelque chose, de lui montrer une reconnaissance.
Mais oui, un César d'honneur quand même. Annie Girardot, on a eu un. Bernard Blier, on a eu un, je m'en souviens très bien. Et là, je me suis dit, ah bon ? Vraiment, j'ai été un peu attristée, en fait, parce que c'est vraiment un monstre sacré du cinéma.
Oui, vraiment.
Et puis, j'ai tout de suite eu deux films en tête, c'est pas les derniers, mais j'avais Les Choses de la vie, avec Yves Sauté, avec Romy Schneider.
Romy Schneider, oui.
Et puis Le Mépris avec Brigitte Bardot.
Mmh.
Hein, c'est les deux films qui me restent comme ça. Il en a fait des dizaines. Donc
il en a fait de grands bons films, des chefs-d'œuvre qu'on pourrait presque, on pourrait dire finalement. Avez-vous un coup de colère ?
Oui, un énorme coup de colère.
Oh là là, moi j'en ai pas alors. Vous allez le faire pour nous deux.
Je peste, on parlait de société de consommation.
Ouais.
Bah, en fait, aujourd'hui, il y a 3500 personnes qui se sont fait virer par visioconférence, d'un coup. Aujourd'hui sera votre dernier jour chez Uber. Voilà comment la compagnie de VTC a licencié 3500 personnes par visioconférence.
Oh. Bah, en parlant de ça, moi, j'en avais pas, mais vous me faites penser, on a eu la même chose avec le Cirque du Soleil, qui était le fondateur Guy Laliberté, qui n'a presque plus de part, mais je pense que maintenant, ils ont beaucoup de difficultés, apparemment, parce qu'avec tout ce qui se passe, la pandémie un peu partout. Mais les gouvernements leur a beaucoup aidé. Et là, du jour au lendemain, ils ont tout congédié, tout le monde. Ils demandent encore de l'aide des gens. Et c'est ce qu'on dit, hein. Ils ont les bourses pleines, puis à un moment donné, congédie personne, sans avis, sans rien. C'est honteux. C'est honteux.
C'est vraiment, on le dit, que l'humain devient une variable d'ajustement. Hein.
Ouais.
Mais c'est le peu de place de l'humain, et c'est très contradictoire avec cette société qui dit toujours donner. Vous voyez, on a des mots comme ça, un peu show-off. Hein, qui disent...
Oh, vous sortez votre anglais ce matin, show-off. J'aime bien Marie-Pierre.
Il faut donner du temps au temps.
Oh ouais, bien sûr.
Retrouver la quête de l'humain, mettre l'humain au cœur des préoccupations. Et là, bim bam, 3500, allez, vous êtes virés, point. Voilà.
Point barre, et silence radio, on n'avait plus besoin de vous, c'est comme ça. Non, c'est vraiment ingrat, mais je pense que je ne sais pas qui me disait ça. C'est vrai, on est dans l'ère où on achète et on jette. Rien compte, on n'a pas de considération pour rien, peu importe les années que vous avez données, ce que vous avez fait, on passe à un autre appel et voilà. C'est d'un égoïsme parfait. Est-ce que, comme toujours je dis, on en est rendu là comme société, c'est ce dans laquelle on veut vivre, est-ce qu'on ne veut pas apporter des changements ? Mais l'avenir nous le dira. Moi, j'ai un coup de cœur pour un athlète ici qui a été... qui a fait du baseball, très connu, qui a eu un cancer au cerveau. Et hier, il est passé à la télé, il disait qu'il avait lancé, il donne beaucoup de conférences depuis, il a un courage là, à peine dans la quarantaine, avec des enfants, c'est un cancer qui ne se guérit pas, il doit prendre des médicaments, donc on ne sait pas combien de temps il lui reste encore à vivre, mais il a fait beaucoup de conférences. Et il a fait un challenge qui s'appelle la gratitude, c'est-à-dire que pendant 30 jours, vous devez prendre 2 heures de votre temps, ou peut-être moins, enfin comme vous le désirez, pour rejoindre 2 personnes à qui vous allez dire merci pour ce qu'elle vous a apporté. Peu importe si elle était présente, si elle vous a fait grandir dans votre vie, ça peut être des personnes que vous n'avez pas vues depuis des années. Mais on demande de faire ça 2 personnes par jour, ce qui fait 60 personnes au bout des 30 jours. Et bon, comme si vous êtes, c'est vous qui avez commencé la chaîne, après ça, après les 30 jours, les personnes vont vous appeler pour vous raconter leurs histoires. Et il paraît qu'il sort des choses formidables à travers ça. Alors, à travers cette pandémie qu'on a vécue, ce confinement, parce que nous ne sommes encore confinés, il y a quand même de beaux gestes qui sont sortis à travers cela. Je n'ai pas de coup de colère, enfin je l'ai fait avec le Cirque du Soleil parce que ça m'a rappelé ça lorsque vous avez parlé d'Uber. J'ai par contre un coup de blues. Vous savez que chez moi il y a un petit ruisseau qui coule et à l'arrivée du printemps, j'ai toujours ce couple de cols verts qui viennent nous rendre visite. Mais là, comme ça fait 2 jours qu'il commence à faire chaud, ce matin là j'ai l'impression que c'était le dernier matin. Alors ils vont partir parce qu'avec la chaleur ils vont aller dans un autre cours d'eau beaucoup plus grand. Et bah, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Mais en même temps, un autre coup de blues en me disant « Ah, est-ce qu'ils sont chanceux, ils sont libres, ils ont cette liberté. » Et j'ai l'impression qu'on l'a perdu un peu depuis cette pandémie. Alors, c'était un peu ça. Mais là, le soleil est au rendez-vous, donc c'est un petit coup de cafard, puis c'est reparti après. J'étais contente de les voir. Je ne sais pas si après l'émission, ils vont être encore là, parce qu'ils viennent surtout tôt le matin. Puis, comme il y a beaucoup de pierres dans le ruisseau et un peu de feuillage, ils vont se cacher un peu. Ils se laissent aller plus loin et ils reviennent. Mais ils sont vraiment fidèles. Ça fait des années. Je ne sais pas si c'est les mêmes, là, je ne pourrais pas vous dire. Mais entre mes cols verts et mes corneilles, qui sont toujours là et qui sont fidèles, ben voilà, ça anime un peu mes journées. Voilà, alors comme on l'a dit, Marie-Pierre, donc aujourd'hui on va parler de consommation pour savoir si vous allez me dire chez vous ce qui s'est passé. Je vais vous dire un peu ici si les tendances se maintiennent, si ça va continuer ou je ne sais pas. En pensant de ce que vous avez dit tantôt avec les êtres humains, ce qu'ils sont, est-ce que nous prenons des bonnes habitudes? Mais le naturel revient très rapidement à la surface de chaque personne. À savoir, on oublie beaucoup les catastrophes. On passe à travers, on est fort, on est très résilient, mais après ça, avec le temps, comme vous dites, on donne le temps au temps, mais quelquefois le temps fait oublier des bonnes habitudes que nous avions prises. Alors je vous laisse un petit peu, quelques secondes, et on écoute Michel Fugain, Viva la Vida, et vous êtes toujours sur Troc Radio, et on parle de consommation, c'est notre sujet du jour aujourd'hui.
Descends l'escalier, t'arrives en bas, la rue est là. C'est plein de bruit, d'odeur et de fruits défendus, et c'est qu'un début, et ta porte tout vue. Allez, tape la lampe à main, tape la lampe, la tape encore une fois. T'as tout à choix, c'est tout à toi. Tape la lampe à main, tape la lampe, la tape encore une fois.
Oui, viva la vida, comme dit Michel Fugain. Vous êtes toujours sur Troc Radio et je suis accompagnée de Marie-Pierre Medouga. C'était le bon temps, ça, hein, avec Michel Fugain et le Big Bazar.
D'une certaine manière, oui, pas toujours.
Non, ah, moi je me suis. D'une certaine manière, oui.
C'était un temps joyeux ou qui avait l'air plus joyeux. Ouais. Mais c'était aussi un temps, il faut le rappeler, puisqu'on parle d'hyperconsommation. Mm-hmm. C'est un temps où on a consommé sans penser à l'avenir des gens qui, l'avenir de nos enfants, l'avenir des personnes beaucoup plus, et sans penser à l'impact.
Ouais. Donc, peut-être.
J'ai vu une toute petite frange de cette population-là, sous cette période-là, qui pensait à l'impact de nos consommations futures, mais très peu. Et donc, on a consommé.
Mais c'était pas dans l'air, c'était pas dans l'air du temps, ce moment-là, dans les années qui étaient peace and love, et on pensait juste.
On aurait dû se préoccuper. Certains sont restés peace and love et ont poussé un peu la réflexion.
Ouais.
Et heureusement, on en a gardé quelque chose. On en reparlera, mais c'est vrai que c'était, voilà. Je constate aujourd'hui qu'il faut un peu enlever nos lunettes toutes roses pour dire, mais cette période-là, c'est là où on aurait dû déjà se préoccuper de notre impact sur le monde.
C'est vrai.
Hein, quand on a...
On ne peut pas refaire ce qui a été fait. L'important, c'est de prendre des leçons de tout ça et d'aller de l'avant. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que, bon, vous, qu'est-ce que vous avez remarqué pendant le confinement? Est-ce que les habitudes que les gens, qu'est-ce qu'ils avaient changé chez vous?
Alors, les habitudes ont forcément changé. Pourquoi? Même si les gens faisaient la queue devant les hypermarchés, il y a trois modes. Hein. La mode du « do it yourself », en anglais, ou faites-le vous-même, en français, a repris vraiment, elle avait déjà pris, grâce à YouTube, le dire, grâce aux réseaux sociaux, elle avait déjà pris une bonne amplitude, mais alors là, ça s'est développé pas seulement pour les masques, mais pour tout, parce que du coup...
Pour le pain, chez vous, pour la farine.
La beauté, pour la farine et le pain, pour la cuisine... L'idée de dire, mais oui, en fait, on peut se faire ces produits, il faut moins se promener, donc il y a un tas de choses qu'on peut faire à la maison. Ça, c'est revenu.
Oui, mais c'est revenu, Marie-Pierre, c'est revenu parce que les gens étaient confinés, parce qu'ils avaient plus de temps. J'imagine que lorsque tout va reprendre, le travail, les gens n'auront pas le temps de faire leur pain comme ils l'ont fait pendant le confinement. Vous ne pensez pas ?
Pas forcément le pain, mais en revanche, ce qui va rester, c'est qu'on va se poser la question, sans doute, de savoir si on ne peut pas cuisiner un petit peu et puis le congeler. Ce que faisait déjà une bonne partie de la population.
Mais c'est vrai que... Mais depuis, je dois dire que depuis quelques années, quand je voyage, que ce soit en France ou en Belgique, il y avait cette tendance des gens qui achetaient beaucoup de congelés chez vous, allaient chez les traiteurs pour acheter beaucoup leurs repas. Et ça, j'avais été surprise. On n'avait pas cet engouement encore ici, au Québec. Enfin, on n'avait pas ça. Là, c'est arrivé un peu plus avec le temps, mais on n'avait pas cette hyper-consommation d'aller acheter tout préparé et d'avoir à juste mettre au four, au micro-ondes, au microwave, là, pour réchauffer. Enfin, ça l'a changé. Et quel autre truc, à part l'alimentation, vous avez trouvé des autres choses?
Le mode de consommation alternatif. C'est-à-dire d'aller glaner. Alors, ça, c'est un peu moins vu avec la Covid, mais le fait de dire, pas simplement de la nourriture, mais le fait de dire, on redonne, on est en plein dans la loi sur l'économie circulaire, on redonne une deuxième vie à nos vêtements. Le vintage, qui était vraiment connu par les gens qui allaient aux puces, mais beaucoup de personnes allaient aux puces pour acheter du neuf. Et une toute petite fraction aller aux puces en recyclant des vêtements. Donc, ça s'est vu après avec des grandes marques qui ont pris l'habitude.
Oui, on apprenait ça ici, on appelle ça des magasins ou des commerces dégriffés, des boutiques dégriffées.
Les dégriffés et puis les dépôts-ventes. Et là où on est effectivement dans donner une seconde, voire une troisième vie à des vêtements. Et donc effectivement, on les prend en photo, on a fini de consommer son vêtement, on n'en veut plus. Allez, on le met sur un site.
Il faut dire que ce côté-là de consommation de la mode et des vêtements a beaucoup changé avec les années. Avant, vous savez, il y avait des couleurs tendances. Il y en a encore un peu, mais beaucoup moins. À l'automne, on attendait voir est-ce que c'était pour être les prunes ou les bordeaux qui étaient pour sortir. Au printemps, le jaune, le rose. Et maintenant, je pense qu'on peut porter à peu près n'importe quoi. Bien sûr, il y a des nouveaux modèles, ceux qui sont vraiment accros de la mode, là, à la fine pointe. Mais je pense qu'on peut porter des chaussures à bourrons, à point pointu, des bottes de cow-boy, tout. Et puis aujourd'hui, beaucoup de gens portent des baskets aussi, avec à peu près n'importe quoi. Mais vous parliez de vintage. Moi, quand je suis allée la dernière fois, j'ai vite j'ai visité des boutiques chez vous de vintage et j'ai vu qu'il y avait certaines boutiques qui prenaient vraiment beaucoup d'argent pour des... Vintage, chez nous, c'est pour être des magasins de troc où on a presque, on l'achète pour presque rien. Mais là, c'était d'un prix. J'en revenais pas.
Il y a les deux.
C'est-à-dire
qu'il y a vraiment du vintage.
Vintage.
Voilà, pour vraiment de marque, où là, vous allez trouver des sacs de marque.
Mais c'était pas ça. C'était vraiment des trucs. Je pense, mais enfin, il y a toujours que des gens qui font de l'argent avec, qui essaient de dire que leur vintage était. Non, je comprends. Si vous avez des sacs Louis Vuitton, ben ça va être pas le même prix qu'un autre sac ordinaire. Ouais.
Et vous allez trouver, en principe, si vous allez dans le Marais, par exemple, à Paris, vous allez trouver ces boutiques-là et c'est au poids. Acheter des vêtements.
Ah, c'est vrai. C'est une chose que j'avais trouvée. Les bijoux. Ça, j'avais été sidérée de voir ça. On vend les bijoux au poids chez vous. En argent,
tout à fait,
beaucoup.
Et les vêtements de seconde main, vous les rachetez au poids aussi. Allez dans le Marais, vous allez voir.
Oui, c'est vrai. Il y avait une boutique comme ça qu'on devait prendre et après il y avait une grande balance là, on pesait et on mettait tous les vêtements dessus. Et ça dépendait. Il y avait certains, je sais pas, je dis n'importe quoi là. Les blouses c'était peut-être à 4 € le kilo. Les jupes avaient un autre prix pour les jupes. Il y avait des prix différents pour différents modèles, des robes
ça,
ou des manteaux.
Le cas. Ça, c'était le cas déjà avant la Covid. Hein, donc ça, c'est
mais les gens non, est-ce qu'on a beaucoup pensé à aller s'acheter des fringues pendant le confinement? Non. Tout était fermé.
Fermé. Mais ce n'était pas dû. Là, quand on parlait des nouveaux modes de consommation, c'était ceux qui existaient avant le Covid, ceux qui se sont accentués pendant le Covid et ceux qu'on va conserver. En
par
France,
la suite,
on a... La loi qui a été votée, qui est la loi sur l'économie circulaire. Cette loi dit plusieurs choses. Alors, elle se base sur quoi, cette loi? Elle se base sur un objectif pour 2030 qui a été voté par l'ONU. Mmh. Il y a 17 objectifs que l'ONU a votés, 17 objectifs de développement durable. Parmi ces objectifs de développement durable, les 192 États ont décidé d'un certain nombre de choses. Mmh. Et parmi ceux-là, il y a la consommation durable, c'est-à-dire une consommation qui permette de préserver aujourd'hui ce qui est, tout en n'impactant pas trop la vie future. Et en particulier, avoir des modes de consommation qui permettent de réduire les déchets, d'être dans un cycle de consommation durable, donc deuxième main, troisième main, de lutter par exemple contre l'obsolescence programmée, le fait d'avoir des équipements informatiques qui tombent spontanément en panne au bout de 3 ans, ça c'est devenu, en France, on a légiféré contre ça.
C'est vrai, est-ce qu'on a besoin de changer de téléphone, de iPhone, de téléphone intelligent tous les 2 ans? Je pense que les compagnies sont responsables aussi de ça, parce que les piles ne sont plus bonnes, il faut les changer à chaque fois. Il y a un travail à faire là-dessus, parce qu'on n'est pas obligé de acheter et... mettre à la poubelle et de recommencer tout le temps comme ça. C'est d'autant plus que les téléphones intelligents sont d'un prix exorbitant.
Et contiennent des produits dangereux qui ne sont pas forcément tous recyclables. Donc l'idée aussi de dire qu'il faut recycler, donc avoir des poubelles de tri, il faut diminuer les déchets.
Mais les gens, je trouve que cette partie-là, les gens, les déchets de recycler, ont beaucoup participé. Chez nous, on y participe beaucoup. La seule question était, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que là, dans les sites de recyclage, et on n'était pas certain, il y avait des gens qui étaient en difficulté, ça leur coûtait moins cher faire venir d'ailleurs de la marchandise que de recycler nos propres plastiques et de recycler tout ça. Alors là, le gouvernement y met dessus, parce que là, les consommateurs se sont dit, écoutez, moi je veux bien avoir 3-4 bacs pour séparer tout ça, on fait tout notre travail, mais après ça, on ne sait même pas s'il y a un suivi. Alors c'est important.
Alors,
ça aussi.
Il y a forcément un suivi parce qu'il y a une loi. Il y a forcément un suivi, donc les centres de traitement râlent quand même. Là, râlent beaucoup parce que parfois, ça devient très cher, effectivement, de recycler pour eux. Le fait d'avoir des bacs de recyclage, ça c'est très bien, mais ensuite il faut des tapis roulants pour pouvoir recycler,
bien sûr.
C'est dangereux.
Et la, la transformation, retransformer ensuite. Voilà, alors les gouvernements, je pense qu'ils doivent les aider aussi à faire.
Le gouvernement aide, justement. Donc, en matière de ce qu'on souhaite aujourd'hui privilégier, c'est aujourd'hui, c'est le déchet ressource. C'est-à-dire que ce que font la plupart des grands États, c'est qu'on a des immenses déchetteries où il y a tous ces ordures ménagères et qu'on enfouit dans le sol. Or, ces enfouissements à terme, il y a des risques pour la nappe phréatique.
Ah, mais nous, on a ces bacs-là, mais ils font du compost avec.
Mais vous ne pouvez pas tout composter.
Non, mais je parle dans la nourriture, là, les petits bacs, je ne sais pas ce qu'ils font avec.
Ce sont les biodéchets, effectivement. Et ça, c'est du compost. Donc, voilà, dans les modes de consommation, on a commencé par dire aux gens, achetez en vrac, évitez d'avoir trop de déchets, réduisez les déchets. On a tous les ans en France la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc, c'est une semaine européenne, donc ce n'est pas qu'en France, c'est dans toute l'Europe, où on donne les bons gestes pour recycler, justement, pour faire du compost, pour limiter, pour acheter en vrac. Ce qui s'est développé, c'est à nouveau l'achat en vrac.
Ça, c'est important. Je suis contente que vous en parlez, parce qu'il y avait encore un article ce matin. Tous ces emballages à tous les produits alimentaires et restes confondus, qu'on enveloppe, on enveloppe, on enveloppe, ça devient... Et c'est ça qui... dans nos bacs, là, quand vous allez faire les épiceries, que vous enlevez tous les emballages, c'est épouvantable tout ce qu'on ramasse.
C'est épouvantable, et les emballages qui ne sont pas tous recyclables.
Non, ils ne sont pas tous recyclables, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas si la plaquette noire en dessous, là, en forme, ou je ne sais quoi, c'est ça, on ne peut pas le mettre dans le bac recyclable. Un autre est là, et vous allez acheter des choses pour de la technologie. C'est tellement enveloppé dans du plastique, on n'arrive même pas à ouvrir.
Exactement. Autre aberration, mais ça c'est une photo qui a circulé sur Twitter, imaginez des fraises emballées individuellement et en plus qui prenaient l'avion. Donc imaginez le coût, l'empreinte carbone. Ce qui a changé, et pourquoi je parle d'empreinte carbone et pourquoi je parle de développement durable, c'est ce qui a changé dans la consommation, c'est qu'aujourd'hui on est dans un cycle de consommation durable, de développement durable, moins impacter les générations futures. Alors, on s'y essaye mal, pour tout dire la vérité, mais quand même, il y a quand même des efforts.
Oui, on fait des efforts, mais il y en a beaucoup à faire encore.
Il y en a beaucoup à faire pour diminuer. Or, la difficulté de diminuer les déchets, c'est effectivement d'essayer de consommer juste ce qu'il faudrait. Ne pas faire d'immenses réserves. Alors là, on ne peut pas dire qu'avec la Covid...
Ah mais non, on est parti en guerre avec ça. Les gens sont partis, ils se sont remplis des armoires pour des mois, là, avec le riz et la farine et les pâtes. Ouais, voilà. Mais et ça a commencé au tout départ, je vous dirais, moi, chez nous, mais chez vous aviez commencé beaucoup avant, avec les sacs. On allait à l'épicerie. Oui. On n'avait pas cette habitude. Alors, chaque fois que je voyageais, j'arrivais, puis, j'avais les mains pleines. Il fallait que j'achète un nouveau sac pour mettre l'épicerie ou peu importe ce qu'on achetait. Ici, ça rentrait dans l'ordre. Et puis, depuis l'année dernière, aucun sac en plastique. On ne peut pas trouver ça nulle part. On doit venir avec notre petit sac. Et les gens se sont habitués parce qu'à chaque fois, on débarquait de la voiture, on rentrait dans l'épicerie. Ah, on n'avait pas de sac. Alors, on devait racheter notre sac à chaque fois. Mais ça, c'est rentré, là. Ça, je pense que les gens, cette habitude-là, c'est bien pris. Maintenant, je ne sais pas chez vous si on fait ça. On nous demande d'apporter. Ça ne se fait pas partout, mais les petites épiceries locales demandent d'apporter soit pour votre beurre d'arachide, même pour chez le boucher, d'apporter vos propres contenants. Naturellement, ça doit être propre. On demande de apporter des affaires tout croche là pour les bactéries et tout. Mais ça commence un peu, pas beaucoup, mais ça rentre un peu dans les mœurs. On commence à rentrer dans nos petits cailloux qu'il faut faire attention. Dans les magasins naturels, ça existe depuis longtemps où on apportait nos contenants pour les shampoings, les conditionneurs, les crèmes. Ça existait. Mais pour le reste, je ne sais pas.
Alors ça existait chez vous, c'est vrai, puis les sacs en papier pour faire les courses. Enfin, je veux dire, pour vous, c'était naturel. Et nous, on avait beaucoup de sacs en plastique. On en a toujours. Vous avez remarqué quand même qu'ils ont fait des efforts. Donc, on a des sacs à tisser. On a des sacs longue durée.
Oui, ouais, on a ça aussi. Ouais, ouais.
Réutilisables. Et effectivement, aujourd'hui, plus de sacs. Donc, si vous n'arrivez pas avec vos sacs, vous allez payer quelque chose en plus. Mais en France, on est quand même le pays du sac. On a du mal.
Ah,
or,
oui.
On a quand même un 8e continent qui est composé que de déchets plastiques qui tuent les animaux parce qu'ils l'ingèrent. Mmh. Et même, on finit par manger du plastique. C'est pas la peine. Il y avait une blague horrible qui disait, mais c'est pas la peine d'emballer le poisson, parce que de toute manière, on a déjà du plastique dedans.
C'est à se demander, oui, même sur les fruits et certains légumes, Marie-Pierre, on a l'impression que la peau, c'est presque, ils mettent tellement de produits que je ne sais même pas si c'est pas une couche plastifiée qu'ils mettent dessus pour pas qu'il soit, pour pas que les moustiques rentrent dans l'intérieur.
En réalité, c'est de la cire. En réalité, c'est de la cire.
Ouais.
Ils cirent des fruits et légumes. Alors, c'est vrai que ça, c'est la, voilà, ce type de consommation. Mais là, on est en train de parler de consommation durable, mais on a multiplié par je ne sais pas combien notre consommation numérique, en revanche.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'effectivement, et là, du coup, on a des serveurs, et c'est les serveurs qui pèsent le plus aujourd'hui en termes de consommation, en termes d'empreinte carbone.
Ah, bien sûr.
Le poids des serveurs, alors il y a des entreprises qui évaluent ça.
Mm-hmm.
J'en connais une, hein. Là, on peut citer cette entreprise-là qui s'appelle What Value,
ouais.
et qui essaye de promouvoir de bons gestes pour les serveurs et de conseiller les entreprises qui ont des sites, ouais, et des serveurs pour leur dire qu'il faut essayer de trouver des serveurs durables parce que tout le stock de nos mails que nous n'effaçons pas,
mm-hmm,
nos visionnages de vidéos qui nécessitent des serveurs, qui les stockent,
mm-hmm,
nos propres serveurs, tout ça, c'est cette consommation qui s'est vraiment...
Ah, bien sûr, tout ce qu'on envoie en l'air, là. Hier, j'écoutais une émission sur les avions, puis on disait que lorsque les avions arrivent ici à Terre-Neuve vers l'océan, sur les radars, on ne les voit plus. Alors là, maintenant, ils ont envoyé je ne sais pas combien de centaines qu'ils ont envoyé de satellites pour pouvoir reprendre ça, pour ne pas perdre les trajets de l'avion. Mais à un moment donné, là, on essaie de nettoyer notre planète ici, mais en l'air, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas tout ce qui tourne autour de la Terre. On envoie beaucoup de déchets là aussi. Il va falloir faire un ménage un jour où je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, on va commencer par nettoyer ici, on pensera après. Mais on pense à nettoyer ici, puis on envoie dans l'air et dans les airs d'autres produits. Alors, je ne sais pas comment on va s'en sortir avec tout ça.
Ça, c'est... Il faut toujours espérer, puisqu'on,
ouais,
met en place,
ouais,
puisqu'on
bien
met
sûr
en place des lois.
Ouais.
Puis regardez, la Covid a permis quelque chose qui semblait impensable, arrêter le monde pendant quasiment 60 jours partout.
Ouais.
Ça paraissait impensable, tout le monde disait que ça n'arriverait pas, qu'on ne pourrait pas le faire.
On l'a tous fait, c'est vrai.
Et pourtant, tout le monde l'a fait,
ouais,
le monde entier l'a fait, et le monde s'est arrêté, et la planète s'en est mieux sortie pendant au moins 2 mois.
Oh, c'est vrai.
Et du coup, en empreinte carbone, on va atteindre ce qu'on devait atteindre cette année. C'est,
ouais,
quand même merveilleux.
Oui, il y a ça. Marie-Pierre, on fait juste une pause, nous aussi. Pas pour la planète, et on revient tout de suite après. D'accord ? On y vient.
Dale, que sigue lo mismo. Dale, vamos a seguir.
Vamos, ataca, Chicho. Vamos, vamos, vamos.
Je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Mais tu as tant de charme, que cela mon âme.
car je suis sans armes lorsque tu es là. Je voudrais te le dire, je voudrais l'écrire, mais je n'ose pas te parler de ça.
Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi.
Tu fais des ravages, je manque de courage pour te déclarer toute la vérité. Je prépare mes discours pour te faire la cour, mais je peux plus bouger quand tu es à mes côtés.
Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux.
Vous êtes toujours sur Troc Radio, vous écoutez D'un océan à l'autre avec Marie-Pierre Médouga et moi-même, Francine Broca. Nous parlons d'hyperconsommation. Oui, Marie-Pierre, nous continuons.
Oui, alors que disions-nous? Nous disions qu'il y avait quand même ce qui avait changé dans la consommation,
oui,
et dans nos nouveaux modes de consommation plus précisément, c'est qu'effectivement on consommait plus, évidemment, toutes les chaînes de streaming légales et d'autres un peu moins légales, hein, mmh, donc les Netflix, les OBS et les OCS et autres chaînes. Ça, ça a été une consommation qui a explosé littéralement puisqu'on était confinés chez nous,
ouais,
et donc on n'avait que ça à regarder. La consommation des réseaux sociaux, on a passé beaucoup de temps.
Mmh.
Mais déjà, ça se dessinait déjà auparavant. Les gens allaient, allaient un peu moins au cinéma.
Encore, oui. Beaucoup avant aussi.
Mais regardez par contre beaucoup les choses avec, sur Netflix, la preuve, on a eu des grands cinéastes qui sont venus mettre leurs films sur Netflix.
Bien sûr, hein, et puis maintenant donc... il y a eu d'autres chaînes. On a la chaîne Apple, on a la chaîne de Disney maintenant aussi qui est sortie. Alors qu'il va donner...
Oui, ouais. Ouais. Amazon, la chaîne aussi. Uh-huh. Donc ça, ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est la grande place donnée, en fait, effectivement, donc, au prix, aux consommations de loisirs, y compris les iPhones. Tu aurais pu penser d'acheter un iPhone qui va presque jusqu'à 1000 euros.
Ah, c'est aussi cher qu'un ordinateur, je vous dirais. La plupart des gens s'en servent comme ordinateur aussi. Hein.
Oui,
il y a
tout
ça,
à fait. Ouais,
tout à fait.
Bon, d'ailleurs.
D'ailleurs, oui, entre autres. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Avant, on n'avait pas tout ça. Et puis, la terre tournait, on fonctionnait. Par contre, ce que j'ai remarqué chez vous, c'est que nous ici, beaucoup de gens, on n'a pas beaucoup de libraires. Il y en a quelques livres dans des grandes surfaces, on peut trouver, mais des petits libraires comme on trouve chez vous, ils sont presque tous morts. Il n'existe pas les livres e-book et tout ça. Les liseuses ont beaucoup moins. J'en ai une, mais j'ai pas pu beaucoup de difficultés à m'habituer à ça. Pour moi, le livre, le papier. J'ai plus de place à en mettre, j'en ai partout dans les pièces, mais c'est important pour moi. Et je pense, ça chez vous, vous avez gardé cette habitude-là, par contre.
On a gardé, même si, regardez, ça c'était une nouvelle très triste aussi. Boulinier, qui avait depuis 1938 son magasin,
ouais,
sur
j'ai
la
vu
place
ça.
De Michel,
ouais.
A dû arrêter. Alors pour moi, c'est vraiment, c'est presque un drame, hein, parce que
ouais.
Boulinier, j'étais étudiante. Donc, je vendais mes livres. Je les ai encore vendus récemment, tous les livres que j'avais en double. C'était là où j'allais acheter mes BD.
Mmh.
Et je lis beaucoup de BD, de mangas. Donc, non, c'était vraiment, pour moi, ça m'a fait vraiment un petit choc au cœur. Alors, voilà, c'est aussi ce type de consommation qui baisse, mais paradoxalement, elle va baisser chez Boulinier. Il y a des magasins, c'est compliqué pour eux. Et puis, vous allez... sur des foires d'exposition comme Paris Manga, comme la Japan Expo.
Ouais.
Et là, vous avez toutes les maisons d'édition et toutes ces librairies qui sont là et qui vendent. Donc, il y a, en fait, c'est les manières de consommer qui changent. Le produit de consommation lui-même ne change pas.
Non.
Les gens qui ont dit que les jeunes ne lisaient pas, mais je m'inscris en faux, les jeunes lisent beaucoup.
Oui.
Ils ne lisent plus de papier.
Non.
Ou pas toujours.
Non.
Ils écrivent encore énormément, les jeunes, mais différemment.
Oui, hein, ils ont une autre forme d'écriture.
C'est une autre forme d'écriture.
Mm-hmm.
Ça, c'est voilà, des modes de consommation. Mais on n'a pas parlé du développement exponentiel de la consommation biologique. Et alors, il y a un vrai paradoxe à ce sujet.
Bien sûr, parce
c'est
que les gens...
C'est une demande. Vraiment, oui.
Ouais, chez nous aussi, c'est comme ça. Les gens voulaient bien acheter bio, mais ils voulaient que ce soit certifié bio parce qu'on n'était pas certain de tout ce qu'on achetait. Si c'était comme ça, on parle beaucoup qu'on a changé parce que les gens sont allés chez Achetons Local. Mais il y a aussi, on veut savoir ce qu'on achète. On veut plus acheter n'importe quoi non plus. Le consommateur devient exigeant et avec raison. On ne veut pas qu'on nous prenne, qu'on nous passe n'importe quoi là. On veut savoir ce qu'on nous donne. Oui. On veut en avoir pour notre argent.
Il y a trop de scandales de viande contaminée, de ESB, donc ça c'était l'encéphalite spongiforme bovine, hein, oui. L'ESB. Mmh. Il y a eu ensuite de la viande de cheval au lieu de la viande de bœuf. Il y a eu tout un tas de scandales alimentaires quand même en France qui ont fait que les gens ont commencé par se dire « Mais mon Dieu, il faudrait qu'on mange autrement. Mmh. »
On achète beaucoup en ligne aussi maintenant. On achète beaucoup en ligne.
Tout à fait. Ouais. Les producteurs aussi. J'en termine avec ça, puis après on parle effectivement de la vente en ligne, mais les producteurs de produits carnés sont en grosse difficulté.
Oui, chez vous aussi.
D'abord parce qu'avec toutes ces associations véganes, les gens ont commencé par dire « je veux bien manger de la viande », mais déjà ça consomme beaucoup la viande, on met du soja, on met des éléments… Vous avez beaucoup de fermes immenses.
Ouais.
Nous, en France,
mais on a changé nos habitudes. Je dirais que est-ce que c'est parce que les gens veillent plus à leur santé et puis ça consomme beaucoup hein, les animaux et ça pollue beaucoup aussi. Alors on s'est dit bon, les gens en mangent. Je ne dirais pas qu'ils sont tous véganes, mais ils vont manger moins. Peut-être une à deux fois par semaine au lieu d'en manger cinq fois. Donc, et puis c'est très dispendieux aussi. On parle du bœuf, là, bon, le poulet c'est toujours abordable, mais si les gens veulent acheter du bœuf, c'est cher pour les familles là qui veulent en manger tous les jours. Ça devient.
Il faut pas manger de la viande tous les jours. Non seulement ça impacte la consommation mondiale.
Ouais, mais il y a des gens qui en mangent tout le temps. Alors l'habitude, vous savez, est ancrée. Hein, on ne peut pas changer ici pendant des années. Les gens
On peut changer,
mais l'habitude chez les gens, elle ne se change pas du jour au lendemain. Il faut quand même leur donner un peu de temps. Mais il y a eu
Ça a baissé quand même. En France, la consommation de viande a baissé, clairement. Ouais. Alors c'est vrai que ça s'est fait dramatiquement pour certains, mais c'était une viande qui était nourrie aux antibiotiques. C'était, voilà. Ouais. Entre le Canada, il y a un différent entre le Canada et la France à propos du traitement des produits carnés. On n'est pas du tout sur la même lignée.
Non.
Et effectivement, nous, on peut pas laver la viande à l'eau de Javel. Il y a des règlements. Ça, quand on a parlé de ce grand marché, hein, le CETA, ça faisait partie de grands différends parce qu'on disait on traite pas la viande de la même manière. Nous, on ne veut plus de viande avec des antibiotiques. On ne veut pas de ces grandes fermes qui consomment énormément de tourteaux, de tournesols, ces choses qui font qu'on est nourri au soja et qui font qu'en fait, on va avoir une difficulté ensuite sur l'impact et le climat, ça fait partie des...
Mais vous savez, le consommateur a été tellement échaudé, on leur a dit, bon, à un moment donné, oui, la viande, c'est bon pour la santé, d'autres, à un moment donné, la viande, c'est pas bon pour la santé. Les gens sont devenus véganes, là, ils ont dit, oui, mais vous manquez de vitamines, il faut faire autre chose. On dirait qu'il y a des modes qui passent, et c'est un peu comme nos politiciens, nos gouvernements, là, c'est tout. Et son contraire. Et ben,
Je m'inscris en faux. Non, alors là, je m'inscris clairement en faux avec vous, je ne suis pas d'accord. Là, c'est rare.
Ah,
hein,
ouais,
là, je ne suis pas du tout d'accord.
Mais peut-être que chez vous, c'est différent, mais ici, on a eu beaucoup de controverses là-dessus et les gens ne savaient pas. Alors, on parle sur quelque chose et après, on mange du beurre. Après, le beurre, ce n'est pas bon. On va vers la margarine. Alors, bon, là, après ça, non, la margarine, ce n'est pas bon. On va vers le beurre. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne mange presque rien. Alors, ça va. Je ne suis pas dans ces groupes-là. Là. Mais c'est à s'y perdre pour certains, je peux comprendre. Mais il y a un gros effort qui est fait. Les gens ont compris. On a une émission qui s'appelle ici La Découverte et qui est très bien expliquée. Chaque semaine, les gens regardent ça. On explique, comme vous dites, sur la viande, la pollution que ça fait. Donc, comme je vous ai expliqué, on en mange beaucoup moins. Les gens qui ont la chance d'avoir un petit jardin se font des jardins maintenant. Il y a eu un éveil sur la nature aussi, de faire attention à
C'est temps, parce que cette société d'hyperconsommation, pour dire la vérité, elle nous mène à la faillite. On a l'impression que ça va aider nos entreprises, mais en fait, on est en train de condamner le monde de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants et de nos descendants tout court. Cet égoïsme qui nous mène à dire « je veux tout maintenant », c'est cet égoïsme-là qui conduit nos enfants à avoir une eau polluée, à ne plus avoir de forêts qui sont les poumons. On déforeste à tout va au Brésil et en Argentine, mm-hmm. on a ces grandes pampas où il y a de la viande, et aux États-Unis aussi. Mm-hmm. On pollue énormément les rivières, et vous savez que les rivières me sont très très chères. Et on se retrouve ensuite à avoir une terre qui ne peut plus nourrir l'ensemble de ses populations d'une part, mm-hmm. et d'autre part qui les nourrit mal parce que les sols sont appauvris. Il n'y a plus de nutriments dans les sols, ce qui fait qu'aujourd'hui, un kilo, une pomme, a deux fois moins de nutriments qu'elle n'en avait il y a 100 ans.
C'est vrai. Mais il faut aussi à changer aussi nos habitudes, comme ici on travaille beaucoup là-dessus, à acheter local et manger les fruits de saison. C'est-à-dire, on ne va pas faire venir... je ne sais pas, là, des fraises, ici on en a l'été, mais si on achète des fraises des États-Unis ou de d'autres pays, ben, il y a le transport, hein. Et tout ça, on a dit, ben, écoutez, là, en Ontario, ils font les pêches l'été. Alors, on peut manger les pêches au mois d'août, au mois de septembre. De s'habituer à manger le légume de saison ou le fruit de saison pour éviter le transport, pour éviter que vienne de l'exportation aussi. Mais est-ce que ça va changer la donne? C'est-à-dire, si on n'importe plus, on n'achète pas, il y a des gens qui vont moins vivre de ça aussi. Il y a tout un...
Ah, il y a forcément, c'est vrai que ça impacte, et vous avez raison de le souligner, ça impacte forcément. C'est pour ça qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'une consommation durable? Et une consommation durable, c'est aussi de se bien payer les producteurs, mm-hmm. parce que là, on fait venir des fruits... qui sont, par exemple, le grand fruit du moment. Alors, on a beaucoup parlé de l'huile de palme, hein, mm-hmm. Qui font que les orang-outans n'ont plus d'habitat, mm-hmm. hein, ou certains animaux n'ont plus d'habitat. On parlerait aussi beaucoup de la banane, qui est énormément infectée, qui a fait qu'en fait, en mm-hmm. Martinique, toutes les eaux sont polluées, mm-hmm. mais polluées définitivement. On parle aussi de l'avocat qui est vraiment, parce que c'est un fruit l'avocat d'ailleurs, donc le fruit de l'avocat qui est surtout dans les pays comme la Colombie, le Panama, qui est cultivé.
Mais si on n'importe plus rien de ces gens-là, comment ces gens-là vont-ils vivre? C'est-à-dire qu'on va devoir tous être relocalisés, faire notre propre production, se nourrir de nous-mêmes et on n'importera plus rien des autres pays, ou peu.
Il faut réfléchir à tout ces ça, modes de consommation, mm-hmm. parce que, en tout cas, tandis qu'ils font ça, eux, ils meurent de faim, ils ne peuvent même pas manger les produits qu'ils produisent. Déjà, parce mm-hmm. qu'en fait, ça devient des monocultures qui mm-hmm. abîment les sols, eux n'ont plus les terrains pour leur culture vivrière n'existe plus. C'est la même chose en Afrique avec le cacao ou avec d'autres matières qui font que maintenant on cultive énormément du riz et pas du sorgho, mm-hmm. et pas d'autres manières, ce qui fait que les cultures vivrières
c'est
n'existent
vrai.
Plus.
Ouais. Ils en voient tout, ils ont rien, ils gardent rien pour leur peuple. Mais ça change un peu, je vous dirais, pas tous les pays, mais juste pour vous donner un exemple, Cuba. Quand j'y suis allée à plusieurs reprises, bon, il y avait beaucoup de bananes le matin au déj. Et pendant des années, il n'y en avait plus pour le tourisme. C'est-à-dire qu'ils le gardaient pour la population cubaine. Et les gens, quand il y en avait au petit déj le matin, les gens se lançaient dessus, puis ils en prenaient 3-4, comme s'ils n'avaient jamais mangé de bananes, le tourisme. Mais quand on se promenait sur les rues, les gens vendaient, les Cubains. Alors le gouvernement avait décidé que c'était eux avant nous, et je trouvais ça très très bien. Très bien, nourrir leur peuple avant d'en donner aux autres.
Ben bien sûr.
Bien sûr.
Donc il y a toutes ces questions-là, je pense que ce sont des questions qui s'analysent, d'où les objectifs de développement durable d'ailleurs au niveau mondial. Mm-hmm. Bien évidemment, les objectifs ont été votés en 2015 pour 2030. On avait 15 ans. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 15 ans? Les gens se sont préoccupés d'un coup de la consommation durable en 2018, c'est-à-dire 3 ans plus tard, et encore en se disant et en faisant.
On a encore du temps devant nous, c'est ça.
pour repousser, pour que ça ne soit pas mis en place. Mais parce que les gens ne veulent pas changer de monde, mais c'est comme quand on leur explique qu'on est en train d'abîmer la planète et qu'il faut avoir un air plus pur et plus d'ozone, et voilà, etc. Les gens ne veulent pas changer, mais il va bien falloir changer parce qu'on ne vit plus dans une planète infinie, on est dans une planète finie, au sens où il y a...
J'aime bien votre. J'aime bien votre. Non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. On dirait que les gens.
On est dans la finitude. On pensait que les ressources étaient illimitées.
Ouais, mais c'est pas comme ça.
Non. Les ressources sont pas limitées. Donc, il va falloir réfléchir à ces modes de consommation. Ça veut probablement dire faire des deuils, hein. Et finalement, cette période de Covid-19, a permis à certains, pas tous, hein, mais de faire quelques deuils. Mmh. En disant, mais finalement, est-ce que j'ai bien besoin de tout ce que je voulais ?
Mais voilà, je
donc
pense qu'on devrait
pendant deux mois. Ouais.
De se poser la question, je pense, même quand on fait des achats. Là. Et souvent, moi, j'ai fait ça depuis quelques années. Et quand je vais avec ma fille, souvent, elle remplit son truc. Et juste avant d'arriver à la caisse, je lui dis, écoute, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Puis là, elle me dit, mais tu casses ma bicyclette, là, tu me fais toujours... Non. Parce qu'elle va s'acheter des fringues, tout ça, puis là, elle en a plein. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu vas les porter? Parce qu'on va dans les magasins, on a envie de ci, on a envie de ça, on met dans notre panier, puis finalement, est-ce qu'on va le porter vraiment? Je parle des fringues, là, parce que c'est ça qui me vient à l'idée. Mais c'est un peu pour tout, hein? Un bibelot, ou à peu près... On achète aussi sur impulsion, beaucoup, beaucoup. Alors ça va peut-être nous faire réfléchir à tout ça, à cette pandémie. Qui va changer nos habitudes, finalement.
Tout à fait. Tout à fait. Je pense que réfléchir à son mode de consommation, réfléchir à la manière dont on veut que la planète puisse aller de l'avant, réfléchir effectivement aussi à la réorganisation de notre commerce. Vous voyez qu'on s'est rendu compte quand même qu'on n'avait pas d'usine qui pouvait produire à côté de chez nous. C'était quand même un truc extraordinaire. Avant, on avait toutes des usines qui pouvaient produire. Et là, d'un coup,
on n'a plus rien. Mais non.
Pas de masque, pas rien.
Mais voilà. Si, on avait des villes qui étaient des manufacturiers, qui produisaient. On a tous éliminé ça. Plus de couturières, plus rien, plus de machines à coudre, plus. On achète des tissus aux Indes, on fait coudre en Chine. Ça vient ici. Ça fait le tour de la planète avant que ça arrive ici. Et à des prix beaucoup moindres. Alors vous imaginez que ces gens-là qui travaillent, ils gagnent deux fois rien. Les pauvres,
c'est
là. C'est ça. En plein ça. Ils ont absolument rien. Il y a quelque chose qui a changé.
Ouais. Oui, je pense que ça a changé vraiment beaucoup. Et je pense que le Covid, non seulement... La Covid, pardon.
Mais c'est correct, moi, quand je parle avec vous, je dis le, et chez moi, on dit là. Enfin, parce que chez vous, tout le monde dit le, alors je m'habitue. D'un côté de l'océan, c'est le, et ici, c'est là. Il n'y a pas, pas de souci, comme vous dites.
D'accord. Mais c'est vrai que... Je pense que ça aura permis de prendre conscience que la machine folle, d'une certaine manière, hein, qui s'emballait, pouvait... s'arrêter. Et je pense que même si on a l'impression que c'est reparti comme en l'an 40, comme on dit, je pense que ça a des effets, ça va avoir des effets durables dans l'inconscient. Vous savez que je travaille beaucoup sur ces notions d'inconscient collectif. On va raconter ça quelque part. Le monde s'est arrêté. Le jour où le monde s'est arrêté. Parce que les gens ont beau dire que c'est une grippette qu'on a exagérée.
Oh, la grippette, elle est pas mal malade, elle est pas mal dure, la grippette, elle guérit pas. Moi, je vais vous le dire, on entreprend notre 10e semaine et on disait justement ce matin que, bon, c'est bien, là, on écoute, on est très discipliné, mais il va falloir que le gouvernement commence un peu à mettre un peu lâche, un peu prise, parce que les gens deviennent agressifs avec tout ça. 10 semaines sans pouvoir sortir. C'est vrai que l'épidémie ici à Montréal, on est loin d'être sorti de l'auberge. Les clusters là, se trouvent vraiment là. Et on n'arrive pas on veut tester. Mais encore là, on a encore un problème. C'est toujours un problème. On parle d'acheter, de pas acheter, de consommation. Mais là, on a un problème de personnel. Et ça aussi, on s'est aperçu de ça. On s'est aperçu qu'on ne prenait pas soin de nos personnages et on les mettait dans des maisons. Là, on parle qu'on va bâtir, on va changer. C'est pas de ça que ces gens-là ont besoin. Ils ont besoin de gens à côté d'eux. Et enfin, comme on dit, notre consommation abusive, est-ce qu'on va la restreindre? On va restreindre aussi l'usage des produits toxiques. On parlait tantôt, mais on va en parler juste un petit peu. On fait juste une courte pause, Marie-Pierre, puis j'aimerais qu'on parle un peu de cette habitude que les gens ont pris maintenant d'acheter en ligne, ce qui est bien, mais qui va aussi enlever beaucoup de travail à tous ces petits commerces qui ont pignon sur rue. On revient tout de suite après la coupe.
Tout à fait.
Dans ma poitrine, à cause de vous, j'ai le cœur qui bat, tout fou, tout fou. J'ai des frissons, et si ça se trouve, c'est maladie d'amour que je couvre. Je dis pas ça en plaisantant, mais depuis vous, y a rien d'important. Je tourne en rond et je me répète tout ce qu'il y a d'écrit dans ma tête. Vous. Voulez-vous du même chemin qu'on fasse un bout? Voulez-vous de la porte qu'on pousse le verrou? Voulez-vous, si c'était d'accord entre nous, si ce que je vous dis ça tient debout, s'il y a de l'amour pour moi en vous? Voulez-vous qu'on fasse notre musique et qu'on la joue? Quand le soleil s'éteint derrière moi, je sais plus quoi faire.
Vous êtes toujours sur Troc Radio, vous écoutez d'un océan à l'autre et nous parlons d'hyperconsommation et de consommation, tout court. Nous voulions parler un peu de cette tendance maintenant que tous les gens ont d'acheter en ligne. Est-ce que c'est très fort chez vous aussi, Marie-Pierre?
C'est alors très fort, non, mais ça a nettement augmenté. Et ça a été une bonne chose, vraiment. Parce que à la fois, alors, moi j'étais partagée, autant je n'aimais pas du tout dans les magasins, dans les hypermarchés où je mets rarement les pieds, mais ça m'arrive quand même de le faire, je n'aimais pas du tout les caisses automatiques où j'avais l'impression qu'elles prenaient l'emploi des gens, autant le commerce en ligne ne me dérangeait pas, pour peu, et je pèse bien mes mots, pour peu que l'on puisse à la fois taxer les entreprises qui utilisent non pas le commerce en ligne, mais toutes les entreprises qui robotisent, etc., d'une part. Et d'autre part, que l'on puisse former les personnes, parce qu'on a moins de caissières, mais ce n'est pas pour les remettre au chômage.
Ah ben
c'est
voilà.
Pour les former à faire autre chose. Et la difficulté, ce n'est pas tant la digitalisation qui est utile, c'est ce qu'on a fait du personnel. Or, il a très peu été formé. C'est ça la difficulté, finalement.
Mais ça a commencé comme ça ici chez nous. Ça a commencé par les caissières dans les caisses populaires, les banques. Alors, vous alliez au guichet et la caissière vous disait « Mais non, ça serait préférable. Écoutez, vous pouvez faire vos transactions au guichet, juste à l'entrée. » Mais je lui disais, mais si on fait tout ça, vous allez perdre votre emploi. Mais ils étaient obligés. On les obligeait à avoir tant de personnes par jour à envoyer au guichet. Ça a commencé comme ça, peu à peu. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on a fait avec? Ben, finalement, ils ont perdu leur emploi ou carrément, il y a moins de succursales à présent maintenant. Il y a juste que des guichets automatiques comme ça. Je trouve ça, ben, c'est ça.
Ce qui est triste, c'est qu'on ne donne pas, mais vous savez qu'il y a eu il y a eu des élections et parmi les candidats qui s'étaient présentés, il y avait un candidat qui parlait du revenu universel. Et qui, alors, il a été moqué, vilipendé, c'était horrible. Et lui disait, mais on le sait que la digitalisation et la robotisation vont faire perdre des milliers d'emplois. Ce qu'a dit après Bill Gates, hein, entre autres. Mais ce qu'il faut, c'est considérer de la même manière qu'on est en train de changer de mode de consommation, qu'on est en train de changer de vision du travail. Ce travail qui signifiait torture, préparium, torture avant, aujourd'hui, il n'est plus... Il change de forme, il change de nature.
Bien sûr, c'est-à-dire que ces gens qui achètent en ligne, ils ont besoin de personnel, ils ont besoin des gens pour répondre à la nouvelle technologie. Service à la clientèle, on peut quand même téléphoner, parler à quelqu'un. Alors, on ne peut pas tout bannir d'un côté, ouvrir quelque chose et oublier le reste. Il faut que le tout s'amalgame ensemble. Pensez à ces gens-là.
Il faut y penser. Oui. Et c'est pour ça que, voilà, c'est... Le problème, c'est que très souvent, dans les politiques de consommation, dans les politiques économiques, on prend un petit bout. Voyez, donc, la politique agricole, on n'a pas pensé qu'il fallait produire local ou qu'il fallait soutenir, par exemple, la production biologique, que tout le monde souhaite, hein, par ailleurs, hein, tout le monde veut manger. Qui veut manger un produit qui n'est pas bon, qui n'a pas de nutriments et en plus qui va nous rendre malades?
Un produit toxique, et, c'est ça. Ouais. Mais on est difficile aussi comme consommateur. On disait qu'on veut tous avoir des fruits bien ronds, parfaits, qu'il n'y a pas des petits picots dessus. On veut tout qui soit parfait. Alors pour ça, les autres fruits, qu'est-ce qu'ils font avec? La nature, elle pousse comme elle pousse. Hein. Les pommes ne sont pas tous égales.
C'est ça.
Voilà.
Nous, on a fait une campagne avec les fruits et légumes moches. Ça vous parle, ça? On avait fait ça. Et la personne qui a lancé les fruits et les légumes moches a lancé après une marque qui s'appelle C'est qui le patron?
C'est qui le patron?
C'est qui le patron, tout à fait. Et cette marque-là, c'est une société coopérative. Et c'est effectivement les consommateurs. Et les sociétaires et les associés de cette coopérative qui sont les patrons et qui décident. Il a un panel, dont je fais partie d'ailleurs, hein, donc c'est pour ça que j'en parle.
Ouais.
Donc il y a un panel de 8000 consommateurs et on décide tous ensemble. Et vous pouvez, pour 2 euros, vous pouvez être sociétaire. Hein. Donc, et on décide de tel produit. Alors on nous met un produit en disant voilà. Ce produit-là, regardez ce que ça fait. S'il est produit à tel endroit, s'il a ça, si on décide de donner tant au producteur, si on augmente, si on veut qu'il soit bio, et petit à petit, on fabrique le coût du produit.
Ah, c'est intéressant. C'est fort intéressant.
En 4 ans, cette marque est devenue la première en matière de lait. Elle a permis, il suffisait de 8 centimes par an pour permettre à des producteurs qui étaient en train de pleurer, qui menaçaient de se suicider, de pouvoir les faire vivre de leur métier.
Extraordinaire.
Vous voyez, ouais. C'est juste pour vous montrer qu'il suffit d'un rien. Il y a ce type de coopérative au Québec, je sais ça, dans vos nouveaux marchés. Pas tout à fait semblable.
Non, pas tout à fait, mais qui ressemble. Les gens se mettent, il y a des coopératives comme ça, chez les agriculteurs, que les gens se mettent, ça existe.
Avec de bons produits. Ouais. Avec des gens qui disent il faut. Donc en fait, toutes ces initiatives existent. Auparavant, les gens les auraient traités du luberlu parce qu'il fallait du produit, produire, comme vous dites, des beaux produits tout ronds. Aujourd'hui, les gens se disent.
Moi, je suis moche, mais c'est qui le patron? Voilà, c'est comme ça. Je trouve ça formidable comme nom. C'est qui le patron? C'est chouette.
C'est nous les patrons, c'est nous les consommateurs.
Mais Marie-Pierre, c'est fini, on est déjà un peu en retard. On va finir là-dessus parce que je trouve que c'est joyeux comme je suis moche, mais c'est qui le patron? Alors voilà, alors faut s'habituer aussi à pas manger les choses. La perfection, elle n'existe pas tout le temps. Hein. Il y a ces petits côtés et il faut savoir les prendre aussi. Alors j'espère que on va garder ces bonnes habitudes et puis qu'on va essayer de réfléchir à acheter local, la valeur, apporter de l'attention, à restreindre notre consommation, pas acheter pour acheter, mais acheter parce qu'on en a besoin vraiment. Et c'est peut-être là la solution. On va pas changer le monde en un jour, mais petit à petit, je pense que on a pris de bonnes habitudes là maintenant. Pendant ce confinement de 60 jours, nous on n'est pas sortis, mais on va continuer d'espérer avec le beau temps qui arrive. Au moins on peut prendre l'air un peu, ce qui va nous changer, ouvrir nos fenêtres, qui va nous faire du bien. Alors voilà, Marie-Pierre, moi je vous dis un gros merci pour tout ce que vous nous apportez. Et puis, c'est nous le patron, alors on va revenir encore vendredi pour un autre sujet d'un océan à l'autre. Je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je sais que vous travaillez très fort là présentement. Ne vous oubliez pas.
Je travaille beaucoup, mais je pense beaucoup à moi. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, moi, je vous souhaite une journée. Alors, profitez de ce soleil qui arrive avec toutes ces senteurs, ces fleurs qui poussent.
Oh, c'est vrai. Je veux dire que chaque saison a ses odeurs. Quand tombe la neige, on ouvre la fenêtre le matin et le froid, on peut sentir cette odeur d'hiver. Et là, c'est l'odeur du printemps. Puis avec la chaleur, là, qu'il y a, on va pouvoir penser que bientôt, on va entendre les cigales. Je sais, je rêve un peu en plein jour, là, mais je suis comme vous maintenant. J'espère et je vois les choses, le bien dans les choses. Voilà, Marie-Pierre, ce que vous m'avez appris. Voilà.
Voilà qui me réjouit.
Allez, je vous fais la bise et on se donne rendez-vous à vendredi. Merci, Marie-Pierre.
À vendredi prochain et merci à vous, Francine.
Bonne journée. Bonne journée à vous tous. Merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours fidèles. Et n'oubliez pas, si vous avez des infos ou vous nous donnez des conseils ou vous avez besoin de quelque chose ou vous voulez en discuter, vous m'écrivez à francine.broca@trocradio.com. Vous pouvez toujours visiter notre page Facebook ainsi que notre page web et les podcasts sont toujours mis en ligne, sont toujours disponibles à votre convenance. Je vous souhaite une excellente soirée à vous en France et une excellente fin de journée ici à Montréal. Au revoir.
Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants, je laisse couler ta Seine sous tes ponts, ta rengaine, toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot.